FM 93.
Bouchard en parle. J'ai pris un verre avec.
Ça, ça va être nouveau. On va aller prendre un verre. Vous connaissez la formule des personnalités que vous avez pour la plupart choisies. On vous a surpris une couple de fois, mais ça vient de vous autres. Avec qui vous aimeriez prendre un verre pour jaser de tout et de rien, ce qui est souvent les conversations les plus intéressantes. Avant, je ne vais pas faire de l'ombre à notre prochaine invité. J'ai vraiment hâte de l'entendre. C'est probablement l'auteur, un des auteurs les plus lus au Québec. Un des rares qui fait dans le monde de l'horreur, vous allez le deviner. Et en plus, non seulement c'est un auteur connu, il fait dans l'horreur, donc il y a des controverses, mais c'est quelqu'un qui n'a pas la langue dans sa poche. Vraiment pas. Et qui se prononce sur plein de sujets. Mais je me dois également, parce que c'est gros, il faut annoncer ce qu'on fait demain.
Okay.
Ellie, t'es d'accord?
Okay,
alors,
oui.
Je te laisse l'annoncer. Vous savez que on a eu plein de suggestions, puis on continue, là. On est loin d'être fini. On est rendu à l'épisode 9.
Oui.
Mais regarde, si on, nous autres, on prend tous vos noms. Mais hier, on a eu un gros coup.
Oui.
Parce que ça a été beaucoup de travail le convaincre de parler.
Je vais te dire,
t'as pris un verre avec qui hier, Elisabeth?
Mais je vais te dire juste avant, là, avant de l'annoncer, je suis juste allée vérifier qu'il est encore bien dans mon téléphone, l'entrevue. Si tu savais hier comment j'avais peur qu'il arrive un bug informatique avec mon téléphone puis que je perde tout, là. Alors, hier, ça a été difficile, effectivement. Puis c'était pas sûr hier que j'allais pouvoir avoir une entrevue.
C'est parce
avec
qu'il
lui.
Il veut plus trop parler, il veut pas jouer à la belle-mère, je donne des indices. Maintenant, il est passé à autre chose. Donc, il en a donné quelques-unes. C'est pas une entrevue exclusive, mais dans ce style-là, en plus, entrevue, là, on parle de tout, personnel, un peu intime. Honnêtement, on l'a essayé.
Oui, puis il avait accepté de me rencontrer, mais pas nécessairement pour me donner une entrevue. Il fallait que j'aille le voir, puis que j'y vende ma salade, puis que je le convainque de me parler. Et il a accepté finalement hier, au terme d'une rencontre avec lui, c'est avec Jean Charest.
Oh. Alors, on prend un verre avec Jean Charest.
Mais là, je vous avertis, la formule a été un petit peu travestie. Là. On n'était pas dans un bar ou un restaurant, malheureusement.
Est-ce que vous êtes saoulé au moins?
Le principe.
Oh, oui, regarde,
on n'a pas pu aller à l'atelier là, parce qu'il était à Montréal, à son bureau. Le gars, il a un horaire chargé. Là. Alors, on a fait un accro à la procédure.
Là, vous allez dire, écoute, il n'y avait personne dans le restaurant, il n'y a pas de bruit. Mais non, c'est parce qu'on était dans un bureau fermé.
Alors, en général, on sera à l'atelier, on s'assoit là. Notre prochain invité, d'ailleurs, ça s'est fait là. Merci encore à Fabio, à Jonathan, c'était le fun. Mais là, demain, vous allez avoir une entrevue de type « Un verre avec Jean Charest ». Donc, l'entrevue sera pas... Évidemment que c'est un peu autour de la politique, mais vous connaissez la formule. Vous avez sûrement parlé de plein d'autres affaires.
Ben oui, c'est sûr. Ben en fait, pas beaucoup de politique, honnêtement.
Ouais?
Il y a tellement de choses à dire, M. Charest, là. Non.
C'est bon.
Vous allez voir.
Déjà. Mais pour l'instant... Honnêtement, est-ce que c'est l'auteur le plus...
C'est un des auteurs les plus lus.
Québec,
honnêtement,
il est, top,
il est très connu. Et il est dans une niche qui n'est pas facile. C'est le maître de l'horreur.
Oui.
C'est notre Stephen King à nous.
Absolument.
Patrick Sénécal, qui a réussi à plusieurs reprises à me terrifier, à m'enlever le sommeil. Et peut-être vous aussi, si vous êtes fan de son œuvre. Et tu l'as dit, on a parlé d'un paquet de choses. Vous allez entendre un peu des éléments sur son œuvre, mais beaucoup sur la société. Et c'est un moulin à parole, Patrick Sénécal. Tu sais, des fois, on se demande, un auteur, il y en a qui sont gênés, il y en a qui sont introvertis. Ça n'a pas arrêté. On a jasé le non-stop. Il y avait un rendez-vous, il est parti, mais sinon, je pense qu'il aurait continué. On aurait continué pendant toute la soirée. Alors, on commence avec sa recette, hein, parce que comment tu réussis à faire peur en 2019 alors que les gens ont peut-être tout vu dans le domaine de l'horreur? Ben, c'est justement en allant un peu à contre-courant de ce qui se fait souvent.
On va faire la mise en garde parce que tout le monde va s'en rendre compte.
Vas-y.
On a eu un petit problème technique lors de cette entrevue-là, hors de notre contrôle. Le son n'est pas excellent.
Exact.
Alors, je vous le dis en partant, ça va être très audible. Je pense que vous allez manquer aucun mot, aucune parole. Ça va demander un petit peu d'attention, peut-être monter un peu le volume. On a travaillé très fort au niveau de la technique ici, mais
on
complètement
s'excuse.
Hors de notre contrôle. Regarde, le micro a brisé. Il y a eu de quoi, là. Alors, c'est dommage un peu, mais vous allez entendre l'essentiel de son message.
Alors, Patrick Sénécal, sur les recettes un peu éculées de l'horreur et sa volonté d'aller à contre-courant.
Tu sais, mettons là, une scène, là, un gars qui crame dans une maison... Si tu veux absolument faire peur au monde avec une scène de même, tu vas la préparer, ta scène. Aussitôt que ça passe de la maison, tu vas mettre plein d'éléments de peur. La maison va être bizarre, le ci et ça. Il marche lentement dans la maison. Et tout ça peut être extrêmement agaçant, peut être extrêmement fatigant parce que tu vois toute la mécanique, tu vois tout le build-up qui est trop intense, qui est trop... Faut pas que la peur soit trop préparée où tu as l'impression que le lecteur et l'auteur savent que la scène va être peur, mais pas le personnage. Faut que tu vives à travers le personnage. Puis si c'est pas logique que le personnage a peur, ben, t'auras pas peur, toi non plus. Tu peux-tu encore faire un film vraiment où qu'un gars va dans un hôtel puis que l'hôtel a de l'air d'un château hanté? Je veux dire, il ira pas, là. T'sais, ça marchait des années 20, 30, 40, mais là, aujourd'hui, il fallait aller dans un hôtel qui a de l'air de rien, justement, puis qui va se passer des choses bizarres. Puis il y a peut-être, bah, c'est ça. Il y a peut-être des petits éléments mystérieux dans l'hôtel, mais vas-y, mollo, tu sais. Mais c'est un hôtel que il tombe en ruine, qu'il y a des corneilles accrochées à la porte d'entrée, tout ça. Tu fais, ouais, mais là, il y a personne qui va aller dans cet hôtel-là. C'est ridicule, là. Tu y crois pas, là. C'est ça.
C'est tellement bon parce que vous savez que j'ai joué un peu dans l'humour étant jeune, là, différentes sketchs et autres parodies. Puis on avait fait une parodie d'un film d'horreur un moment donné. Puis c'était en plein ça, là, parce que je sais pas si vous l'avez regardé beaucoup, là, mais des fois ça devient un peu louche et redondant. Une bande de jeunes complètement insouciants décident d'aller prendre un coup le vendredi soir et choisissent une maison éloignée dans la forêt avec aucun issue, noire. Et tu sais, ils font tout le temps les mauvais choix. T'sais, mettons qu'il y a une route sécuritaire totalement éclairée avec un poste de police, et ils vont se sauver, mais par la forêt. T'sais, ouais. Avec des cris bizarres. C'est tout le temps un peu.
C'est ça, des clichés.
Et c'est vrai que dans son œuvre à lui, comme il dit... Si...
Tu vois, tu tournes la page, tu fais, parce que justement, tu t'attends pas. Il n'y a pas de build-up, et c'est ça qui fait la
le
force.
Le manoir hanté était plein de toiles d'araignées avec les oiseaux. Là, on s'attend à ce qui va arriver de quoi. Là.
Évidemment, Patrick Sénécal, ceux qui l'ont lu et ceux qui ne l'ont pas lu, parce que c'est souvent ceux qui ne l'ont pas lu qui vont dire ça. Écrire des affaires de même, faut être fucké. Faut que tu sois fucké.
Ouais, ça, tout le monde pense ça un peu, des fois, là.
Qu'est-ce qu'ils pensent des gens qui le trouvent fucké?
Ouais. Quelqu'un qui dit qu'il aime pas me lire, je peux comprendre ça, puis s'il fait ça avec respect, ça, moi, je gagne, y a pas de problème. Mais quelqu'un qui me dit, c'est effrayant avec les affaires de même, faut être fucké, faut être tordu, ben, je me dis, mon Dieu, je sais pas quoi leur dire à ces gens-là. Ils m'intéressent pas, ces gens-là. Je veux dire, dans le sens que, si t'as décidé que j'étais un fucké parce que j'écris des histoires fuckées, ben, manifestement, on a rien à se dire. Mais je pense que si tu prenais la peine de t'ouvrir l'esprit un peu, pas pour me lire, mais juste pour comprendre que, ça se peut, que ça peut exister. T'sais, c'est comme si on disait que tout le monde qui écoute des films porno, c'est tous des maniaques sexuels. Il y a une méchante trollée de maniaques sexuels, là, parce que il y en a un paquet de monde qui écoute la porno. Mais je peux comprendre que les gens sont parfois surpris quand ils me rencontrent de dire « Ah, on vous imaginait pas comme ça. On pensait que vous étiez plus drôle, qu'on pensait que vous étiez plus... »
Ouais, avec un couteau dans les mains.
Non, il y en a qui pensent que je suis plus gothique que ça. Il y en a que... quand j'étais moins connu publiquement, les gens pensaient vraiment que j'étais une espèce de métalleux ou de gothique, là, les cheveux longs. J'ai déjà eu, ma passe de cheveux longs, mais qui était là, j'ai 50 ans, on va se calmer les nerfs aussi à un moment donné.
Mais quand même, tu sais, évidemment, bon, c'est ça, c'est pas une personne fuckée, c'est quelqu'un qui m'a paru très normal, mais quand même, quand il a vu le menu de l'atelier, tu connais le menu de l'atelier,
oui.
Grosse plaque de métal, il a dit, ah, on pourrait tuer quelqu'un avec ça. Ça donne le ton pareil. Il dit, je pense à ces affaires-là, moi, évidemment.
Il y a de l'imagination, oui, de la création, mais ça veut pas dire que, comme un acteur ou une actrice qui peuvent jouer des rôles totalement différents de leur personnalité. Là.
Il va très loin dans l'horreur, par contre.
Oui.
Et tu penses peut-être à la même scène que moi, qu'il y a une scène dans le vide, son roman, qu'on ne décrira pas voler de punch, mais qui est, à mon sens, dans l'horreur, la scène qui m'a le plus marqué, qui m'a le plus chamboulé. Une scène où est-ce qu'il se passe des choses innommables, mais qui est importante pour la narration aussi.
Mais tu sais pourquoi, selon moi aussi, elle m'a marqué. Tu sais pourquoi? C'est parce que c'est pas Frankenstein, c'est pas un vampire.
Non, non.
C'est parce que c'est un être humain qui commet ces gestes-là horribles. Puis c'est ça qui rend la scène encore plus épeurante. Puis comme moi, tu sais, t'en as couvert des procès parce que, regarde, on vendra pas le punch, mais c'est un truc sexuel.
Ouais.
Tu sais, il y en a des affaires de même. Ça arrive dans l'air.
Exactement. Et il m'a justifié un peu cette scène-là et le contexte dans lequel il l'a écrite.
Mais il y a des gens, je suis sûr, qui me l'ont dit. Il y a une couple de personnes qui m'ont dit « Moi, je veux t'aller trop loin là-dedans, j'ai débarqué. J'y ai pas cru. » C'est normal quand t'écris des scènes de même que c'est pas tout le monde qui a le même niveau que toi de crédibilité. Puis de, bon, pas de crédibilité, mais qui vont y croire. Puis... Alors, faut que je respecte ça, puis je peux pas dire à quelqu'un qui me dit ça, t'es un escarpe, t'as rien compris.
Mais je comprends.
C'est lui qui trouve que, lui, ça a pas marché avec lui. Lui, il a pas cru. Alors, c'est pas lui le problème, c'est moi qui a pas été capable de faire en sorte qu'il a cru. Mais une scène de même, tout le monde peut pas adhérer à ça, c'est pas possible. C'est trop extrême, justement. Mais à mes propres yeux, oui, je suis capable de justifier. Je suis capable d'expliquer pourquoi j'ai jusque-là.
Alors, il dit que c'est une scène qui est importante pour la narration, et c'est vrai. Si vous allez le vide ou si vous le lisez, vous allez comprendre qu'il y a
Ça explique tout.
Oui.
Ça explique ce qui s'en vient après, là, sans rentrer dans les détails.
Et d'ailleurs, il y a un cas dans l'actualité, je l'ai évidemment lancé là-dessus.
Ah, ben oui, là.
Le cas de l'auteur qui a été arrêté pour son roman Godbout, Ansel et Gretel.
Il s'appelle un Godbout. Yvan Godbout.
Yvan Godbout, exactement, qui a écrit Ansel et Gretel, une version horreur. Et il y a une scène où est-ce qu'il y a des attouchements sexuels décrits avec pas mal de détails. Il a été arrêté pour production de pornographie juvénile. Et
il a été arrêté comme un pédophile. Il est arrêté comme un pédo. Il est accusé de porno juvénile en prison. Prison. Et si jamais il est condamné, oui, il pourrait se ramasser en prison, en passant.
Qu'est-ce que Patrick Sénécal pense de ça?
C'est une page, premièrement, puis c'est pas l'apologie de... Il montre pas que c'est le fun, là. Il montre que la victime, elle aime pas ça. Le pédophile, il paye à la fin du roman, en plus. Là. Il paye en tabarnouche, là. Il y a un exutoire pour le lecteur à la fin. Le problème de ça, c'est que est-ce que la scène est bonne ou pas? Est-ce que c'est de bon goût ou pas? Tout ça est secondaire pour moi, complètement secondaire. L'important, c'est que tu peux pas commencer à censurer la fiction dans un pays démocratique. Tu peux pas faire ça parce que si tu commences à dire que ça, c'est trop,
ben qui va décider à partir de où c'est trop ou pas? C'est un nombre de cadavres fait que c'est trop? C'est un nombre de victimes? C'est le, après un certain hectolitre de sang? Bon, là, il paraît que dans ce cas-là, la loi dit que t'as pas le droit de faire de pédophilie, mais tu peux avoir une exception quand c'est artistique. Mais si c'est ça, pourquoi il est arrêté? Parce que c'est... Fait que, moi, ce que j'espère de cette histoire-là, puis oui, ça se peut que ça choque du monde, qu'on est tous épouvantables, mais lis-le pas, c'est tout, c'est, puis c'est prouvé, donc oui, là, que un livre va pas rendre... Quelqu'un de Saint-Esprit qui va lire ça va pas devenir un pédophile. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est quelqu'un de Saint-Esprit qui va lire ça, ça va l'écœurer, tout simplement.
Voilà. Et puis, il a rajouté, puis quelqu'un qui est pédophile puis qui va lire ça, ben, de toute façon, il est déjà pédophile. Fait que, c'est ce qu'il dit, c'est que ça n'a pas de bon sens de censurer une œuvre de fiction, puis qu'il dit, c'est sûr qu'il va gagner devant la cour, puis après ça, il dit, ça n'a pas, ouais, ça a aucun sens. On ne peut pas commencer à faire ça dans un pays démocratique. C'est une perte de liberté importante.
Non, mais la loi, il l'a dit, hein, puis on l'avait parlé à l'époque. La loi permet une exception.
Oui.
La loi dit, évidemment, toute forme de pornographie juvénile, à moins que ce soit dans un ouvrage, par exemple, que ce soit sous forme artistique, fiction. Alors, je comprends pas ce qu'il fait là, moi. On va y faire un procès, alors que des vrais pédos, il y en a tellement plein, là. Puis, dans certains cas, ils ont l'arrêt Jordan. C'est un peu spécial, hein? À cause de l'arrêt Jordan, on va libérer des pédos. On n'a pas le temps de lui faire un procès en 3 ans, mais on a du temps pour l'auteur.
Il prend du temps au palais de justice, ce gars-là. C'est débile, là. Il prend des avocats, il prend un juge, il prend un local.
Il faut qu'il se défende.
C'est pas de sa faute à lui, c'est pas lui que je blâme.
Et en passant, si lui est accusé, ceux qui ont le livre en leur possession, ça devient possession de porno juvénile.
Mais ils l'ont retiré toutes les librairies.
Hey, vu de même, c'est vrai. Ouais, si lui est accusé de production,
si
ceux qui possèdent...
Là, ils vont pas,
oui, effectivement. Oui. Mais mettons qu'il est reconnu coupable.
Les librairies qui l'ont vendu...
Aussi.
Ils l'ont toujours bien vendu pendant un bout. C'est distribution de porno juvénile.
Si ce livre-là est considéré comme un porno juvénile, t'as raison, j'avais jamais pensé à ça.
Oui, ça s'appelle distribution. On t'accuse Archambault.
Et possession, à un moment donné, ceux qui l'ont
possession, acheté. Possession, distribution, parce qu'à un moment donné...
Des fois, la réalité rattrape la fiction. On en a parlé un peu avec la scène du vide, qui est très réaliste, malheureusement, puis qui nous a shaké justement parce qu'elle est réaliste. Un autre de ses romans qui a fait grand bruit, c'est Elle.com. Elle.com, qui est écrit à un moment où est-ce que le dark web et toutes ces cochonneries qui se passent là-dessus n'est pas vraiment connu. Alors, je vais demander à Patrick Sénécal, est-ce que tu as ressenti une espèce de frisson désagréable quand tu as réalisé que...
Si on résume un peu l'ouvrage, effectivement, ça décrit le dark web, ça décrit un site Internet où des gens très riches s'abonnent et tout ce qu'ils veulent, ils l'obtiennent.
Les pires exactions, violentes et
imaginez
sexuelles.
Imaginez dans votre tête, torture, violence sexuelle. Je compte pas le punch, là, rapidement, on découvre que c'est ça.
Alors, qu'est-ce qu'il a ressenti quand tu l'as réalisé que ça existait quand même, cette affaire-là?
Oui.
T'imagines le pays, là, que ça existe quelque part. Puis moi, mettez-y, Elle.com, il n'y a pas de raison que ça n'existe pas, des affaires de même. Il n'y a pas de raison, ça prend une caméra, ça prend... Bon, l'affaire qui existe sans doute pas en ce moment, c'est l'espèce de... quand même une espèce de communauté mondiale qui contrôle ça, puis bon, ça c'est très, très, très organisé, alors que le dark web n'est pas organisé, là. Tout le monde fait ce qu'il veut sur le dark web.
Il y a différents réseaux,
c'est ça. C'est ça. Mais l'idée qu'il existe des choses épouvantables, qu'on puisse aller chercher des choses épouvantables sur le web, quand j'écris le roman, je me disais, mais pourquoi pas? Mais le monde du dark web, j'avoue que quand j'entends parler de ça après le roman, j'avais une petite fierté quand même. Je me suis dit, ah, tu vois, je suis capable de... Tu te dis, ça te donne pas un frisson, ça te fait pas frissonner. Je suis comme bon pour imaginer le pire de l'être humain. Je suis capable de ça. Ça me surprend pas tant que ça, finalement, que l'être humain peut faire des choses aussi horribles.
Mais c'est un peu triste pareil que la réalité, là. Le rattraper. Mais lui, je comprends. Oui. C'est un auteur de romans. Fait que dans ce cas-ci, il a anticipé.
Il est un peu visionnaire. Visionnaire. Et lui, sa thèse, c'est un peu la thèse du Joker. Il pense qu'on est tous à une très, très mauvaise journée de devenir le Joker. Et c'est un peu ça qui transparaît dans ses livres. C'est-à-dire, si on a une très, très, très mauvaise journée qui nous pousse au bord du gouffre, on pourrait commettre l'irréparable. Et c'est un peu la théorie qu'on voit dans ses romans.
Je pense que c'est une chose que j'ai retenue de mes nombreuses lectures sur la guerre. C'est bien ça. On a tous en nous une part de démon.
Oui.
On a une part d'ange, mais on a une part de démon. Vous savez, d'ailleurs, sur les soldats, je m'adresse aux gens de Valcartier, là. C'est un long débat, mais je veux pas... Vous avez entendu parler de ceux qui ont des syndromes de post-traumatique. On dit souvent que c'est parce que c'est des gens qui ont assisté à des scènes de violence puis qui ont rien fait, ils ont été impuissants face à la violence. Plusieurs psychiatres s'inscrivent totalement faux contre ça. C'est ce qu'on laisse croire. En réalité, c'est des gens qui ont répliqué. Ils ont commis des actes de violence, légitimes parfois, en se défendant, en voulant aller sauver quelqu'un. Mais ils ont tué plusieurs fois et ils se sont aperçus qu'ils étaient capables. Et c'est ça qui les traumatise. Chaque fois qu'on parle de syndrome de post-traumatique, on nous raconte la même histoire. Ah, ça, c'est des soldats, ils ont vu un viol, puis ils ont rien pu faire, puis ils sont traumatisés. Les psychiatres qui ont travaillé auprès des militaires, j'en ai lu, là, disent, c'est pas vrai, ça. Leur vrai problème, faut aussi le comprendre, c'est tout aussi, là, je suis tout aussi compréhensif, mais ils ont fait de quoi?
Oui.
Et ils ont découvert que l'être humain est capable. de se battre, de tuer et de commettre de la violence.
Ben oui, militaire, c'est ça. Un policier aussi. T'as des policiers qui vont passer une carrière au complet sans jamais tuer personne, mais t'en as quand même une minorité qui vont avoir tué quelqu'un au cours de leur carrière. C'est pas tout le monde qui est capable de gérer ça après, là.
Patrick Sénécal se distingue aussi par le fait que tous ses romans sont un univers en soi. C'est toujours nouveau. Il y a parfois des liens, là, mais c'est toujours un nouveau roman. Il n'y a jamais de suite en tant que tel.
Non.
Et j'ai parlé de ça parce qu'on a l'impression, puis on en parle de temps en temps, qu'au cinéma ou à la télé, c'est toujours des suites ou des remakes.
On ne veut pas prendre de risques. La meilleure façon de prendre de risques, c'est de prendre des choses qui ont déjà marché en se disant, mais si ça a déjà marché, ça peut marcher encore. On compte beaucoup sur la nostalgie des gens. On s'est rendu compte, en fait, je pense que les bons d'Hollywood se sont rendus compte que les gens veulent pas tant de nouveautés que ça, finalement. Puis qu'il y a plein de gens qui sortent un remake de films qu'ils ont aimé, ils vont avoir le goût d'aller voir le film. Ce qui est assez curieux, parce que moi, je suis plutôt contre les remakes. Je dis, surtout si l'original était bon, il était bon, pourquoi en faire un autre? La seule raison qu'ils en font un autre, c'est parce qu'ils savent que toute une génération de jeunes qui font pas l'effort d'aller voir le vieux, et qu'il y a un paquet de vieux qui vont vouloir voir le remake parce que ça va leur rappeler l'original. Fait qu'ils essaient de rejoindre tout le monde, mais artistiquement parlant, quelle est la motivation? Et souvent, il y en a pas.
Et c'est ça, il déplore ça un petit peu. Et en lien avec ça, j'ai demandé qu'est-ce qu'il pense des palmarès et du box-office.
En plus, moi, tout ça, Inoué, là, toutes ces affaires-là de palmarès, c'est pour ça qu'on veut savoir, c'est quelles qui sont bonnes, pourquoi qui sont bonnes. Cette course-là, qu'est-ce qui a marché le plus? Puis il y a des gens qui vont écouter l'émission parce que c'est celle-là qui a marché le plus. Ils n'ont même pas savoir de quoi ça parle. Si tout le monde l'a écouté cette semaine, j'ai dû manquer quelque chose. Peut-être que oui, mais peut-être que non. Les informations avant, c'est quoi, tu sais? Fait que moi, ces chroniques-là, là, les 10 émissions qui ont le plus marché cette semaine. Mais pourquoi qu'on fait ça? Moi, ça m'énerve. On fait ça dans toutes, là. Les 10 entreprises font plus d'argent. Les 10 plus belles filles du Québec. Les 10 plus beaux gars du Québec. Les 10 meilleurs autos. Toujours les listes des meilleurs. Comme si la vie au complet était un concours puis une course olympique.
Je comprends très bien ce qu'il veut dire, puis je suis d'accord, mais en même temps, si j'ai lu Patrick Sénécal, c'est à cause de ça, moi. Parce qu'à un moment donné, tout le monde le lit, puis un palmarès est populaire. Je dis, le peuple peut se tromper, mais pas tout le temps. S'il est aussi populaire, moi, fini par embarquer, puis je me suis mis à acheter ses livres, j'ai adoré ça. Mais c'est les palmarès qui m'ont un peu aidé, tu vois?
Oui.
Et parlant de palmarès, lui est dans les livres, dans la littérature, et dans les tops, mais c'est les romans, puis les romans sont jamais en tête de liste. Qu'est-ce qui est toujours en tête des palmarès? Des livres de cuisine, puis des livres de croissance personnelle.
Tout le temps.
Son point de vue là-dessus.
C'est quand tu vois qu'il y a juste ça, à part, sauf exception. Puis qu'en général, il y a des gens qui n'achètent que des livres de recettes, des livres de croissance personnelle, mais qui n'achètent jamais d'autres livres sérieux, disons. C'est ça qui est un peu plate. C'est ça qui est un peu choquant. La croissance personnelle écrite par n'importe qui a vécu une expérience dans sa vie puis qui pense que trouver le moyen d'être heureux dans toutes les situations, ça me fatigue. Parce qu'on sait très bien qu'un livre, quelqu'un qui fait le pas et qui a besoin d'aide, il a besoin d'aide. Il n'y a pas besoin d'un livre secret ou je sais pas quoi, là, va te donner pendant 200 pages, toi. All right, ça va mieux. Dans 2-3 semaines, ça va revenir ton problème, là. Parce que c'est jamais aussi simple que ce qu'un livre va te dire. J'ai l'impression que parce que, surtout quand c'est écrit par des vedettes, des gens connus, des croissances personnelles, on dirait que, là, je reviens encore à cette fascination-là pour le vedettariat et pour la popularité. Si ces choses, la vedette de tel téléroman qui a écrit un livre de croissance personnelle, parce qu'il est connu, automatiquement, le public va penser que cette personne-là a une crédibilité plus grande que d'autres personnes. Ce qui est complètement absurde.
Et dans cette quête de sens-là, qui lui a donné notamment l'inspiration pour écrire Le Vide, hein, parce que Le Vide, c'est ce vide de sens-là, Patrick Sénécal, lui, voit une difficulté importante des gens à se remettre en question.
C'est dur de prendre le temps de se remettre en question. C'est toutes des affaires que beaucoup de gens n'aiment pas faire. Moi, là, des fois, là, quand quelqu'un t'engueule, tu réagis, parce que moi, je suis un impulsif, je peux engueuler aussi, mais les fois que j'ai été calme devant quelqu'un qui gueule, il est tellement désarmé là, que souvent, il va s'excuser. Parce qu'il va se rendre compte de ça, j'ai eu un accident, là, boum, le gars m'a rentré dedans, là, puis bon, j'ai rentré dans le gars, ça fait des années, là, de ça. J'ai rentré à quelqu'un, puis il sort, puis il est craqué, là, il s'attend à un hostie duel, là. Puis il fait, Chris, tu fais la vitesse que t'allais bien vite, tu m'as pas vu? Je fais, ben non, t'as raison, je suis désolé, c'est de ma faute, je suis vraiment désolé. J'ai aucune excuse. Là, il a fait, ah, correct, tu es blessé, ça va-tu? Je dis, non, oui, ça va. Ok, c'est bon. Lui, il juste fait, bon, mais là, il reconnaît que c'est de sa faute. Je ne vais pas me mettre à l'engueuler en plus.
C'est vrai, hein?
Il y a bien du monde qui n'a pas voulu reconnaître que c'est... Moi, le problème de reconnaître quand on a... Puis moi, c'est quelque chose que je fais facilement, ça, c'est de reconnaître que j'ai tort. Si j'ai tort, moi, je me suis excusé souvent sur Facebook, là. Souvent, là. Là, je me suis trompé, tout ça. Il y a bien des gens qui ont de la misère avec ça. Ils voient ça comme un signe de faiblesse. Je ne sais pas pourquoi. Moi, que je trouve que c'est un signe d'ouverture et de remise en question, d'être capable de s'excuser.
Hey, Hey, ça, c'est pas en mode, mais pas à peu près, là. Dans les débats aujourd'hui, c'est quand vous entendez ça d'un débat. Hey, sois-tu que je t'écoute? Je suis en train de t'écouter, puis t'as raison sur ce point-là, on va te le donner. Oui. Mais as-tu pensé à... Jamais, les gens s'écoutent pas. La majorité des débats, c'est beaucoup plus la personne qui se parle à elle-même, ou à ses amis, puis à ses supporters, puis à ses crinqués, mais on écoute très peu la partie adverse, on admet très peu nos torts. Il a raison.
Absolument. Et ça crée une polarisation dans les débats, et en politique, et même dans la frange politique qui l'appuie.
Moi, je suis un gars de gauche. Puis quand je vois qu'une certaine gauche, en ce moment, tombe dans les mêmes arguments que la droite, c'est-à-dire penser comme moi, sinon vous n'avez rien compris, ça m'énerve, ça me fait peur. Parce que là, je trouve que je peux pas utiliser les mêmes armes que ce que tu dénonces, ça n'a pas de chance. Mais tu sais, on a souvent reproché à une certaine droite extrême d'être très polarisante, puis de refuser, puis d'être généraliste, démagogue. Et là, je trouve que il y a une certaine gauche qui est comme ça, puis ça m'attriste, parce que moi, je ne veux pas m'identifier à cette gauche-là. Là, si même les universités qui se veulent ouvertes commencent à empêcher des gens de donner des conférences parce qu'ils disent le contraire de ce qu'ils pensent, mais là, il n'y a plus de dialogue, et là, ça ne marche pas.
Ben là, tu vois, il rejoint un gars de droite qui s'appelle Mathieu Boccoté, qui ce matin, dans le Journal de Québec, dénonce qu'un grand philosophe français, Alain Finkielkraut, est maintenant banni de certaines universités. Il parle de ça, mais j'ai encore lu ça un matin, là. Parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas son message, qui n'aiment pas son discours, qui n'aiment pas ses idées, puis ferme ta gueule, on veut pas t'écouter.
Et en terminant, dernière question que j'ai posée à Patrick Sénécal, le maître de l'horreur, il a peur de quoi?
Mon prochain roman, c'est un gars qui a peur de la mort, c'est beaucoup moi, en fait. Puis moi, j'ai peur de la mort. Puis je pense qu'il est temps que je fasse un roman là-dessus. J'ai parlé de beaucoup de morts dans mes romans, mais j'ai jamais parlé de la peur de la mort.
Pourquoi t'as peur de la mort?
Parce que je sais pas ce qui va se passer. Puis moi, de pas savoir ce qui va se passer, ça me fait peur. C'est parce que je crois pas à l'enfer, je crois pas au paradis avec des anges, là. Mais qu'est-ce qui se passe quand? Est-ce qu'on sait la plug et il se passe plus rien? C'est ce que je crois de plus en plus. Mais même si ça me fait peur, parce que l'idée que tout va arrêter me fait peur, même si j'en serais pas conscient. C'est complètement irrationnel. Mais ça me fait peur pareil.
Alors, j'ai déjà le goût de... Ça m'intéresse. Je trouve ça franc de dire ça. Parce que dans les médias, on véhicule plus les gens. Ah, moi, j'aime ça vieillir. C'est donc bien le fun de vieillir. Toujours des gens en santé. En passant, c'est rare qu'ils disent ça quand ils ont des grosses maladies chroniques ou cancers. Ah, c'est merveilleux vieillir, mais j'ai pas peur de la mort. Moi, je rejoins... Il y avait j'ai vu ça sur un magazine à succès, là, 7 jours et autres.
Ben, c'est
Gilles
Renaud, oui.
Elle dit ça. Elle dit, c'est injuste vieillir. Je suis tellement d'accord avec ça. C'est pas juste. La vie est tough.
C'est la même justice pour tout le monde, par exemple.
Oui. Mais sur le plan individuel, tu sais, de te donner autant de possibilités, autant de belles choses toutes, puis tranquillement, pas vite, t'enlever ça. Hein? À chaque année, on t'en enlève un petit peu de plaisir, un petit peu d'affaires. Tu sais, tu pognes ton pic à tel âge. Après ça, c'est irrémédiable.
C'est la pente descendante.
C'est ça, parce que tu as connu mieux avant.
Oui.
Tu sais de quoi t'es privé.
C'est juste une série de deuil. Vieillir, c'est une série de renoncements puis de deuil. Tu peux faire ça avec sagesse, tout ça. Mais j'aime ça, les gens assez francs pour dire, parce que là, on est dans la mode de dire, c'est merveilleux. Je vieillis en santé puis j'aime ça. Pis... Peut-être, là, ça dépend un peu de...
Ben, il doit en avoir que c'est vrai aussi, par exemple.
Allez vous promener une journée en CHSLD. J'arrive de là encore en fin de semaine, on s'en reparlera, OK? On parlera de la merveilleuse.
Non, mais t'as des gens en CHSLD qui dit ça, qui considèrent qu'ils ont eu une belle vie, puis garde, j'ai vécu
ce que j'avais.
J'ai des gens proches de moi qui disaient ça, même une fois qu'ils étaient rendus là-bas. Okay. En fait, ils étaient reconnaissants pour la vie qu'ils avaient eue. C'était plus ça.
Encore faut-il se souvenir de la vie que t'as eue?
Ah, ben oui, c'est sûr que si t'as une maladie qui fait que tu t'en souviens plus, mais c'est pas tous des.
Mais c'est ça, vieillir. Éventuellement, tu vas inévitablement.
Le pourcentage de ceux qui sont Alzheimer puis les maladies cognitives, regarde le pourcentage.
Mais si t'avais posé la question, c'est
Mais je sais, c'est parce qu'à ton âge, vieillir, c'est avoir mon âge, genre. Fait que là, tu me vois, comment je suis heureux, comment
alors
je suis bien.
Alors que c'est moi, vraiment. Tu dis.
Alors, comme il est peint.
Même veste.
Regarde Jean Fournier, tu vas comprendre comment c'est pas plaisant.
J'ai déjà des cheveux blancs.
Non, non, mais...
Je suis sur la pente descendante, déjà.
Ben non, t'es jeune au bout, sérieux, là. Mais pour moi, vieillir, vu que je suis rendu à 40 passés, vieillir, c'est maintenant 70-80, là.
Oui, mais c'est dans tellement longtemps. Si tu commences à t'en soucier aujourd'hui...
Tu savais comment, non.
Non, mais écoute, si 26 mois, 28 ans, je commençais à me soucier de mes années... 70-80, probablement que je ne profiterai pas à 100% des années qui s'en viennent où je vais être en santé.
Je sais, mais quelqu'un qui avoue qu'il a peur de mourir, je trouve que c'est sincère, c'est le fun. Moi, ça me rejoint.
Ouais.
Tu sais, parce que des fois, on dit, mon Dieu, les gens vont penser que t'es malade, là. T'as peur de mourir. T'es OK, t'es pas bien dans ta peau, t'es pas heureux. Ça n'a pas rapport. Au contraire, je suis super heureux, mais j'ai peur de mourir.
Plus tu vieillis, plus tu réfléchis.
Plus tu y penses à ça.
Parce que ça peut arriver. Les chanciers s'approchent, là.
Ouais. C'est ça.
Tant que ça ne prend pas une grande partie de ta journée.
Elle ne comprend pas, fait.
Elle
ne
comprend pas. Elle est trop jeune et trop naïve.
Dis le gars qui n'a même pas 50 ans.